Vous êtes sur RTL.
Il est 9h. RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce samedi 11 janvier, d'abord l'actualité de la nuit. Deux jours après le drame, l'Iran reconnaît sa responsabilité dans le crash d'un Boeing.
C'est bien un missile qui a touché l'avion et provoqué la mort de ses 176 passagers, dont 57 Canadiens. C'était juste après son décollage de l'aéroport de Téhéran. Téhéran qui a d'abord nié être à l'origine de cette tragédie. Depuis quelques heures, c'est donc clair et net. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service étranger de RTL. Christophe, les autorités iraniennes se confondent en excuses.
Oui, Téhéran fait franchement volte-face après avoir nié les évidences. Le gouvernement iranien présente ses excuses. Il regrette cette tragédie et, je cite, une erreur impardonnable. Le responsable va être traduit immédiatement en justice, promet l'état-major iranien. C'est d'ailleurs ce que réclame Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui exige également le paiement de compensation.
Et comment une telle erreur humaine est possible, Christophe ?
Alors, les militaires iraniens expliquent qu'ils étaient en état d'alerte. Quelques heures avant, ils avaient, souvenez-vous, bombardé des bases américaines en Irak et ils s'attendaient à des représailles. C'est dans ce contexte que le vol 752 d'Ukrainian Airlines a décollé de l'aéroport de Téhéran. Arrivé à près de 2000 mètres d'altitude, il a semblé se rapprocher d'un site militaire sensible tenu par les gardiens de la Révolution. La DCA iranienne aurait alors cru qu'il s'agissait d'un avion hostile et tirait plusieurs missiles, ne laissant aucune chance à cet avion de ligne et à ses passagers. C'est en tout cas la thèse développée par les Iraniens. On avait d'ailleurs vu des vidéos montrant un trait lumineux dans le ciel de Téhéran, suivi d'une explosion. Il n'y avait donc guère de doute, mais les Iraniens plaident en quelque sorte pour une responsabilité partagée. Si les Américains n'avaient pas fait monter la tension dans la région en tuant le général Soleimani quelques jours auparavant, une telle erreur ne serait pas arrivée, disent-ils. C'est maintenant l'examen des boîtes noires de l'appareil qui devrait permettre de définir avec précision ce qui s'est passé.
Les précisions de Christophe Decroix. Merci Christophe. Pour l'instant, Donald Trump n'a toujours pas tweeté. En revanche, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé dans un communiqué assez froid que toute la lumière soit faite en disant compter sur la pleine collaboration, je cite, des autorités iraniennes.
Et une question chez nous en France. Ce samedi sera-t-il le dernier jour de mobilisation contre la réforme des retraites ? En fait, tout dépend de ce que va proposer le Premier ministre.
Et oui, après une nouvelle réunion avec les syndicats à Matignon hier, Édouard Philippe s'est engagé à faire des propositions concrètes et surtout, dès aujourd'hui. Les prochaines heures vont donc être déterminantes, Vincent Derosier.
Oui, le week-end est décisif. Le compromis tant espéré n'a jamais semblé aussi proche. Les syndicats sont prêts à discuter de l'équilibre financier. Édouard Philippe, lui, a passé la soirée à chercher une porte de sortie acceptable pour tout le monde avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Car pour l'instant, le Premier ministre l'a dit hier, rien n'est fait.
Je dirais que ce soir, nous avons bien avancé, mais il nous reste du travail. Par écrit, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis.
Alors oui, il y a des avancées dans les mots, mais pas dans les actes, comme l'a dit Laurent Berger hier. Les actes, c'est pour aujourd'hui. Édouard Philippe va mettre de l'eau dans son vin, confie son entourage. Le ton et les mots employés hier prouvent que le Premier ministre, très fermé jusqu'ici, va faire cette fois-ci de vraies concessions pour enfin trouver le compromis réclamé par le chef de l'État.
Vincent Derosier du service politique de RTL. L'attente de ces propositions n'empêchera pas une nouvelle journée de mobilisation nationale. Aujourd'hui, le cortège parisien partira de Nation à 13h30 pour aller vers République. Les perturbations sur les rails sont moins importantes qu'il y a quelques jours, mais toujours là. La SNCF prévoyait un TER sur deux, par exemple, 4 TGV sur 5. À la RATP, seules les deux lignes automatisées, la 1 et la 14, fonctionnent normalement. Nous vous mettons évidemment tous les détails sur notre site rtl.fr. Par ailleurs, sachez que la CGT a déposé un préavis de grève dans deux centres de la Banque de France à partir de lundi. Ces deux pôles, qui sont situés en Ile-de-France mais aussi dans les Hauts-de-France, traitent plus du quart des billets en circulation dans le pays, ce qui pourrait évidemment à moyen terme perturber l'approvisionnement des distributeurs automatiques.
Le parquet de Paris ouvre une enquête pour violence volontaire lors de la manifestation parisienne de jeudi.
Oui, des images ont été filmées et diffusées, des tirs à bout portant avec un lanceur de balles de défense. La scène est assez impressionnante, Anne Lehnaff.
La vidéo dure 30 secondes. On y voit un face-à-face tendu. Un policier écarte violemment plusieurs manifestants avec sa matraque. Puis un deuxième surgit et tire avec son LBD à moins de 2 mètres. Plusieurs personnes sont apparemment touchées et s'écroulent au sol alors que les policiers continuent leur progression. Rapidement, la vidéo est devenue virale. Le parquet s'est donc saisi de l'affaire pour comprendre ce qui s'est passé. L'enjeu de l'enquête sera de déterminer si ce tir était justifié ou non, dangereux ou non, alors qu'il n'y a pas de distance minimale officielle pour ces tirs de LBD. On ne sait pas dans quel état sont les manifestants qui semblent avoir été touchés. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. De son côté, la préfecture de police qualifie cette vidéo de parcellaire et sortie de son contexte. Elle précise que 18 tirs de LBD ont été effectués avant-hier, contre plus d'un millier lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris le 1er décembre 2018.
Anne Lehnaff du service police-justice de RTL. Par ailleurs, pour des faits qui se seraient déroulés le même jour, une conductrice RATP porte plainte. Elle se trouvait dans le cortège près de la gare Saint-Lazare lorsqu'elle a reçu plusieurs coups de matraque télescopique de la part d'un policier. Là aussi, la scène a été filmée.
On va partager dans un instant les sourires des volleyeurs français qui participeront au prochain JO de Tokyo cet été. Ils ont décroché hier leur ticket en Allemagne. A tout de suite.
9h08, suite de RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Et donc tous les sports, Agnès, direction le Japon. Pour nos volleyeurs français, ça y est, c'est fait. Ils ont décroché hier leur ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain.
Et ils le méritent, hein, ce ticket. Ils ont battu les Allemands en 3-7 hier soir. Après le coup de sifflet final, ils étaient évidemment fous de joie. Il y avait également beaucoup d'émotions, y compris chez l'entraîneur, Monsieur Laurent Tilly. Pourtant, très pudique.
On est rentré de suite dans le match et on voyait la concentration énorme. Et en plus, les consignes de jeu tactiques ont marché immédiatement. Et je crois que ça a donné de la confiance. Et après, il y avait une certaine de sérénité. J'arrive pas à penser tellement je suis comblé. C'est tellement miraculeux, c'est tellement fantastique pour les joueurs. On y pense depuis 4 ans. Les Jeux de Tokyo, on va essayer déjà de les préparer au mieux possible. On va voir. On va déjà digérer un petit peu cette qualification. Et puis après... On espère sortir les poules et puis après on verra. On verra. Chaque chose en son temps.
Des propos recueillis par Blandine Milsan, notre correspondante en Allemagne.
Eux aussi ont le sourire, sont les footballeurs marseillais qui consolident leur place de dauphin.
Ouais, ils ont creusé un peu plus l'écart avec Rennes en battant les Bretons 1-0 hier soir. Alors ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout pas. Mais sur le Vieux-Port, on rêve déjà de la Ligue des Champions. Si ça devait être le cas, Isaac Liadji ferait-il partie de l'aventure? Déniché et formé par le club, ce prodige de 17 ans refuse toujours de signer un contrat en bonne et due forme. Il est visiblement très exigeant et du coup, ça commence à sérieusement agacer les dirigeants de l'OM, Hugo Hamelin.
Oui, c'est ça. Et pourtant, Isaac Liadji n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Originaire d'un quartier très pauvre de Marseille, il est devenu ces dernières années la pépite du centre de formation de l'OM. Un ailier racé que les recruteurs scrutent, sondent. Alors pour briller encore plus, l'adolescent va s'adjoindre les services d'un agent bien spécial, le même Ousmane Dembélé, réputé particulièrement coriace. Cet arrêt brutal des négociations, ce n'est pas le premier coup de pression de l'OM. Ça fait plusieurs mois désormais que l'entraîneur André Villas-Boas refuse de le faire jouer. Et bien tout simplement pour le forcer à signer.
Je ne veux pas mettre trop de pression sur un petit de 17 ans. Je ne sais pas si ça peut changer ou non. Ça dépend de lui et de les personnes autour de lui.
L'entourage d'Isaac Liadji, ses prétentions salariales à 6 chiffres, clairement ciblées par la direction de l'OM qui veut le mettre au pied du mur, montrer aux supporters que son appétit a fait capoter les négociations. Mais à l'heure des stars précoces, le minot sait que si la porte du Vélodrome se referme, bien d'autres en Europe lui resteront ouvertes.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL, la suite de la 20e journée de Ligue 1. C'est d'abord la rencontre Bordeaux-Lyon, hein, tout à l'heure à 17h30. Puis 5 autres matchs à suivre en direct sur notre antenne dans le multiplex RTL aujourd'hui en France avec Christian Olivier et Philippe Sansfourche au programme. Toulouse-Brest, Angers-Nice, Nîmes-Reims, Amiens-Montpellier et Metz-Strasbourg. Cette quoi, musique, vous la reconnaissez?
Non.
Non? C'est la bande originale de Bullitt. Non. Vous savez? Un film dans lequel Steve McQueen conduisait une magnifique Ford Mustang dans les rues de San Francisco. Figurez-vous que ce petit bijou, à ce prix-là, on peut appeler ça un bijou, a été vendu aux enchères 3,7 millions de dollars. Mais ce qui est assez cocasse, c'est qu'en 1974, le monsieur qui a acheté le véhicule, un employé qui était sur le tournage, l'avait acheté 3 500 $. Ah
ouais. Ça s'appelle une plus-value, hein, c'est
ouais,
ça.
Une belle plus-value.
Un bon carton,
très
au passage.
Belle plus-value.
Bullet, comme vous le dites avec Steve McQueen.
Bullet.
Ouais. Agnès Bonfillon, toute l'actualité, évidemment, vous allez sur notre site rtl.fr. Je me retourne.